Alors, nous allons encore aujourd'hui délaisser pour un temps la lettre de Jacques. On y reviendra, hein, rassurez-vous, on le retrouvera. Enfin, rassurez-vous, je ne sais pas si ça vous rassure de vous dire que vous allez le retrouver, parce que bon. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que nous nous arrêtions sur l'une des lettres que notre Seigneur, au travers de l'apôtre Jean, a adressée à une des sept églises de l'Apocalypse. Alors, vous serez peut-être surpris de ce choix, mais il m'a été suggéré au travers de différents épisodes qui ont émaillé ma vie ces dernières semaines. Alors, le premier épisode, c'est Isabelle, ma chère et tendre femme, qui, après la lecture du chapitre 3 de l'Apocalypse, on parle de cette église, et en lien direct avec mes questionnements incessants et permanents sur la vie de l'église en général et sur la nôtre en particulier, Isabelle, donc, qui me dit... « Tu es le pasteur de l'église de Sardes, c'est toujours bon de le savoir, contente-toi de faire ce que Dieu te demande. » Le deuxième épisode, c'est donc ma relecture du message que notre Seigneur a adressé à cette église de Sardes et ma prise de conscience que tel était peut-être effectivement l'état de notre église et ma responsabilité. Alors je parle de responsabilité car les lettres de cette église, ou c'est cette église, vous le savez sans doute, cette église qui faisait partie de la province romaine d'Asie, située dans Turquie actuelle, bien, ces lettres sont toutes adressées à l'ange de ces églises, Angelos en grec. Alors rassurez-vous, je ne suis pas un ange. Et au risque de vous décevoir, cet ange n'en est pas vraiment un, car s'il peut effectivement s'agir d'un ange, une figure tutélaire du royaume de Dieu, un ange, un vrai, le mot signifie également messager, envoyé, messager de Dieu plus simplement. Et dans ce sens, beaucoup de théologiens encore aujourd'hui pensent que cet ange en question, en fait, personnifie les responsables de ces églises, concentrés ici en une seule personne, donc sans doute figure pastorale avant toute autre chose. Alors si ces théologiens ont raison, il est donc clair que c'est à moi en premier que s'adresse cette lettre. Sans oublier néanmoins que, contenu de toutes ces lettres aidant, celle-ci s'adresse en fait clairement à chacun d'entre nous. Troisième et dernier épisode, pardon, de nombreuses questions surgissent à ma lecture du texte, à vous en douter, hein, les questions et moi, ça fait un. Question que je laisse donc en suspens jusqu'à ce que j'acquière la conviction qu'il faut que je travaille sur ces questions et que je mette tout ça en lien pour vous apporter un message. Alors, vous trouverez peut-être, et c'est votre liberté, bien entendu, hein, que le lien que je vais faire entre cette église et la nôtre est exagéré, et c'est très fort possible, c'est fort possible. Mais n'oublions pas que notre Seigneur fait des reproches à toutes les églises, à part une, Philadelphie, à six églises sur sept, il leur fait des reproches, et pas des moindres, et qu'il veut, je pense, nous enseigner par là qu'il faut éviter de se voir trop beau, ou de prendre la malheureuse habitude de ne jamais se remettre en question, parce qu'aux yeux de Dieu, c'est une attitude qui n'est absolument pas raisonnable. Il faut donc voir tout cela comme un appel au réveil, un appel à la vigilance, et surtout une réaffirmation que notre Dieu nous aime, car il ne parle qu'à ceux qu'il aime. Passons au texte. C'est dans ces moments comme ceux-ci que je suis content que nous ne soyons pas orthodoxes, et que, parce que les orthodoxes au culte, ils sont debout. Donc vous êtes assis, ça va peut-être aider, déjà. Rappelez-vous, c'est la parole de Dieu, avant d'être la mienne. Hein. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Tatin. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, excusez-moi, et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Petite précision d'emblée, il est évident que celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles, c'est évidemment notre Seigneur Jésus. C'est lui qui adresse ses messages à ces différentes églises. Éphèse, Philadelphie, et bien d'autres, Laodicée et bien d'autres. On va commencer par faire un peu d'histoire, parce que pour comprendre les messages à ces églises, il faut faire de l'histoire. Il faut s'attacher à l'histoire de ces églises et des villes qui accueillent ces églises. La ville de Sardes se situe à l'ouest de la Turquie actuelle. Voilà. Vous voyez Sardes. Vous voyez bien que toutes ces églises sont... Bon, il faut quand même quelques kilomètres à pied pour y aller d'une à l'autre, pour passer d'une à l'autre, mais ces sept églises sont relativement concentrées dans la même région. Cette église, cette ville de Sardes, pardon, est passée dans l'histoire pour une ville riche et prospère. Crésus, qui fut le roi de cette ville, est passé à la postérité comme une référence à la richesse, ne dit-on pas riche comme Crésus. Mais c'est de là que ça devient. Et pour cause, puisque coulait aux abords de la ville la rivière Pactole, ça ne s'invente pas, rivière aurifère, donc possédant un très riche filon d'or, qui était célèbre à l'époque et ayant forcément participé à la prospérité de la ville. De là l'expression « toucher le pactole ». Là encore, c'est de là que ça vient. Comme pour toutes les lettres adressées aux églises de l'Apocalypse, notre Seigneur va donc se servir de l'histoire de la ville où se situe l'église de Sardes pour lui parler. Et la première chose que l'on va remarquer, si on lit attentivement le texte, c'est un triple appel à la vigilance, à l'état de veille, à rester éveillé, à l'état de veilleur. L'injonction « sois vigilant » que nous avons lu dans le verset 2 traduit en fait le grec « sois veillant », « sois en permanence en état de veille ». Il faut en effet savoir que la ville était et sa citadelle était réputée imprenable. Pourquoi ? Parce qu'elle se situait au sommet d'un piton rocheux. En Grèce, dans la culture grecque de l'époque, prendre l'acropole de Sardes était une expression proverbiale signifiant tenter quelque chose d'impossible. Imaginez que je dise à Nicolas, voilà, je vais jouer au loto, je vais faire ceci, je lui parle d'un projet extraordinaire, nous sommes grecs, hein, du 3e, 4e siècle avant la naissance de Jésus. Et en répondant à ça, parce qu'il ne croit pas une seconde, on dit « Bah, tu veux vraiment prendre l'acropole de Sardes, toi ?» Donc, ce que tu es en train de me dire est impossible. Ce qui est très intéressant, c'est que les deux premières expressions relatives à Crésus et au Pactole sont arrivées jusqu'à nous. La troisième dont je viens de vous parler n'est pas arrivée jusqu'à nous. Et pourquoi ? Parce que la citadelle a été prise. Elle était imprenable et elle a été prise. Sur trois côtés de ces pitons rocheux, les parois étaient presque verticales. De ce côté-là, pas de danger. Quant à la crête au sud, elle était un peu moins verticale, mais elle était si mince qu'elle était facilement défendable. C'était un suicide de vouloir passer par là pour une armée quelconque. Pourtant, c'est toujours ce qui arrive avec les pièces imprenables, en 546 avant notre ère, Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, s'avança en Asie mineure, donc en Turquie, et dut se résoudre à prendre Sardes qui entravait la progression de ses troupes. Il ne pouvait pas contourner la ville, il devait la prendre. Il promit donc une forte récompense à celui qui trouverait le moyen de prendre cette forteresse. Hérodote, l'historien grec, raconte comment l'un des soldats de Cyrus, un certain Héroédès, vit un soldat lydien, donc un soldat sardois, se pencher trop fort au-delà du rempart et perdre son casque. Donc ce gars assiste à ça. Le soldat en question sort du rempart, descend à travers les rochers, récupère son casque et remonte. La suite, vous vous en doutez. La même nuit, quelques soldats perses courageux grimpèrent par ce même chemin escarpé qui n'était pas décelable d'en bas. Ce chemin était au milieu de la roche. Ils entraient dans la forteresse, qu'ils trouvèrent non gardée. Il n'y avait pas de soldats pour la garder, ça ne servait à rien, elle était imprenable. Et forcément, la citadelle fut prise par les Perses. Les Lydiens, donc les habitants de Sardes, étaient tellement sûrs de leur forteresse et de son solide emplacement, ainsi que du fait que personne ne trouverait jamais le chemin dérobé, qu'ils ne veillaient tout simplement plus du tout. Ils ne gardaient plus leur citadelle. Pour anecdote, la ville tomba encore une fois aux mains des Syriens, cette fois-là, en 214 avant la naissance de notre Seigneur, pour les mêmes raisons. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Alors, il est clair que le verset 2 est une allusion à ces événements historiques et que le verset 3 est un développement de la parabole du voleur en Matthieu 24. Rappelez-vous de cette parabole, Jésus dit « Je vais revenir ». Tu ne sais pas quand, ce sera en journée ou même peut-être la nuit, il vaudrait mieux pour toi que tu ne sois pas en train de dormir. Que tu sois en état de veille, que tu fasses ce que tu es supposé faire en attendant mon retour. Le message central de ce passage à l'église de Sardes est clair. Tu passes pour être vivant. Tout le monde pense que tu l'es, mais tu es mort. Alors, cette mort, rassurez-vous, enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, n'empêche, hein, cette mort est bien entendu spirituelle et est comparée ici dans le texte à un sommeil, à un état de sommeil. Ceux qui veillent sont éveillés, sont réveillés, ceux qui ne veillent pas sont endormis. Alors la preuve de ce que je dis que cette mort est spirituelle, c'est que cette lettre s'adresse à des personnes qui sont supposées l'entendre. Il faut donc que ces personnes soient vivantes, physiquement j'entends. Donc ces chrétiens de l'église de Sardes se pensent donc spirituellement vivants, alors que leur dit Jésus, ils sont morts. Alors, il faut réfléchir, c'est une des questions que je m'étais posée. Qu'est-ce qui peut bien donner l'illusion à une église ou à un chrétien ou une personne qui se dit l'être? Qu'est-ce qui peut bien donner l'illusion d'être vivant alors qu'en fait, on est mort? Qu'est-ce qui peut bien donner l'illusion à quelqu'un de dire « Ah, moi je suis en état de veille » alors qu'en fait, il est en train de dormir? Pour l'église de Sardes, le texte ne le dit pas, on ne peut qu'extrapoler, hein. C'est sans doute, c'est un des risques, hein, qui peut donner l'illusion de l'état de veille alors qu'on est en train de dormir, c'est sans doute la conservation de certaines doctrines, hein, attachement, une certaine doctrine d'évangélique, sans doute la continuation de ce que j'appellerais les exercices du culte, hein, venir au culte, participer aux rencontres de l'Église. Autrement dit, toute une dynamique, une régularité extérieure dans la conduite. Mais pour important que ça ces choses, parce que c'est important, elles ne sont que des formes, elles ne peuvent être que des formes, d'où a disparu peu à peu la vie de la foi, la vie de l'amour qui est liée, la vie de l'Esprit de Dieu, tout simplement. Alors, je viens d'y faire allusion, ça ne veut évidemment pas dire que les formes extérieures de la foi sont à négliger, hein. Je préfère vous voir au culte que ne pas vous y voir. Ne prenez pas ça pour une excuse pour ne pas y être, hein. Oh mais, ils sont tellement tordus, moi le premier, qu'il y a toujours un risque. Mais par contre, ce que je pense qu'il faut comprendre, c'est que tout cela peut n'être qu'une illusion de vie, une réduction de la vie de Dieu à une simple expression extérieure. Et c'est probablement le pire état que l'on puisse concevoir pour une église ou même et surtout pour une âme. Parce qu'après tout, quelque église que ce soit est constituée d'âmes. Il vaut mieux de très loin les combats spirituels, même avec quelques défaites. Il vaut mieux les tentations, même avec quelques chutes. Les douleurs infligées par la repentance, avec leurs effets de retour à Dieu et de régénération, de purification et de second souffle, de souffle nouveau. Il vaut mieux tout ça parce que là où les âmes souffrent et combattent, il y a encore de la vie. Ces chrétiens qui n'avaient que l'apparence de la vie, ce sont donc les soldats de Sardes qui auraient dû veiller sur les remparts de leur ville comme l'on veille sur son âme. Alors, Quand on parle de pratique extérieure, nous les protestants évangéliques, on pense souvent que nous échappons à ce phénomène. Nous le réservons souvent aux églises dites multitudinistes, catholiques, orthodoxes, où ce sont les sacrements qui donnent la vie, où nous savons que c'est faux bibliquement, nous avons de tous ces gens qui se réunissent à la messe ou au culte orthodoxe ou autre, ces gens sont forcément morts puisqu'ils n'ont pas reçu l'information sur le chemin à suivre pour être vivants, pour passer par la nouvelle naissance. Ce sont des églises où le monde est entré dans l'église, ça n'est pas faux. Et nous, de notre côté protestant, puisque nous savons, nous sommes bibliques, nous nous disons, ben oui, cette lettre s'adresse sans doute surtout à ceux-là qui pensent vraiment être vivants alors qu'ils sont pour la majorité tous morts. Seul problème, c'est que le danger, il peut être multiforme. Le danger pour nous, peut-être spécifique aux protestants que nous sommes, le danger que nous encourons, c'est de ne pas entendre cette parole de notre Seigneur, le chef de l'Église, parce que nous nous enveloppons dans notre nouvelle naissance et dans notre conviction d'être sauvés. Il n'y a que les protestants évangéliques, si vous leur posez la question, qui vont vous dire qu'ils sont sûrs d'être sauvés. Hein. Un orthodoxe ne vous dira pas ça. Un catholique non plus. Vous parlez de purgatoire, des trucs qui ne sont pas bibliques, hein, mais très peu vont vous dire « moi je suis sûr ». Pourtant, mes amis, et je te parle toujours aux protestants que nous sommes, sans les manifestations de veille, de l'état de veille que sont la repentance, les combats, les luttes au dehors et les craintes au dedans, comme le dit Paul, nous ferions bien de vérifier le niveau d'huile de nos lampes. Lampe tellement indispensable lorsqu'on veille, parce que qui sait qui connaît la longueur de la nuit, la longueur du temps qu'il va falloir encore attendre avant que notre Seigneur revienne. Je fais allusion aux lampes, parabole des 10 vierges folles, hein, enfin des 5 sages et des 5 folles. 5 d'entre elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes. Hein. Elles attendaient pour tout, pourtant toutes les 10 le retour du Seigneur. Hein. Mais elles dormaient toutes les 10. On a également relevé qu'au contraire des autres églises auxquelles s'adresse notre Seigneur dans l'Apocalypse, en ce qui concerne l'église de Sardes, il n'est pas parlé d'affliction. Toutes les autres, Jésus leur dit, je connais ta persécution, la persécution dont tu souffres, je connais tes combats, je connais ce... Sardes, rien de tout ça. Apparemment, ils ne souffrent pas, ils ne sont pas persécutés, tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est un signe, justement, que tout ne va pas si bien que ça. Elle ne subit en tout cas aucune souffrance reconnue par le Christ comme les autres églises. Sa conformité au monde l'avait sans doute préservée de la persécution. Un chrétien qui n'est pas persécuté, il y a une raison à ça. Enfin, persécuté, pas spécialement envoyé en prison. Ici, nous sommes encore en démocratie, mais dans vos relations personnelles, si vous n'avez aucun problème parce que vous êtes chrétien, c'est que vous avez en fait un solide problème. Alors, on peut y voir peut-être, me semble-t-il, un parallèle avec le malheur que constitue le pseudo-bien-être de notre société occidentale. Notre société ne combat pas l'Église. Elle ne la persécute pas. Ben c'est vrai, hein, nous ne sommes pas persécutés. Non, non, elle ne persécute pas l'Église. Elle l'absorbe. Elle l'endort au son de son bien-être, de sa technologie. Le seul problème, c'est que notre vie spirituelle s'endort avec elle. Alors comment savoir que l'on est vivant, sachant que les fausses certitudes dans ce domaine, à l'instar des croyances erronées que possédaient les soldats de Sardes quant à l'inviolabilité, je l'ai dit, de leur rempart, sont dangereuses car propices à l'endormissement. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, mis à part les difficultés liées à l'état de veille que j'ai déjà évoqué, il y a une autre chose importante. Il faut entendre. Je dirais simplement qu'aucun soldat gisant sur un champ de bataille à la fin de celle-ci ne s'aperçoit de la mort de ses camarades. Un mort ne peut pas reconnaître la mort de quelqu'un d'autre. Si nous sommes tous morts ici, et pas que c'est le cas, hein, imaginez, comment voulez-vous que l'un d'entre nous puisse dire à l'autre qu'il est mort? Seul un vivant peut dire à un mort qu'il est mort. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez, hein, l'image. Ce n'est donc pas un mort qui peut juger de l'état de mort de son voisin. Il faut un vivant. Il faut quelqu'un de vivant pour juger de la mort d'un autre. Et alors, lorsque le vivant, ce vivant, traverse ce lieu où il n'y a que des morts, ce lieu de désolation, il frémit justement parce qu'il n'y rencontre que des morts, alors que tout le monde devrait y être vivant. Alors ce vivant, c'est comme ça qu'il se présente dans l'Apocalypse, c'est ici notre Seigneur lui-même qui se présente à Jean comme étant le vivant, avec un V majuscule. Et ce vivant est là pour une seule raison, pour faire entendre un cri de réveil. Ça, c'est la bonne nouvelle. Cette missive, même si elle est dure, c'est d'abord un appel au réveil. Si le réveil est possible, c'est qu'il n'y a qu'endormissement. On peut réveiller quelqu'un qui dort. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il faut se réveiller. Alors, il n'y a pas que notre Seigneur qui est appelé à réveiller. Dans l'église de Sardes même, il le dit, il y a des gens qui sont encore vivants, donc qui sont réveillés, qui sont en état de veille. C'est la responsabilité à ceux-là aussi, entre autres à l'ange de cette église sans doute, ou aux anges de cette église, aux responsables, de faire en sorte que ce cri de réveil retentisse au sein de l'église. Il y a donc ici, malgré la lourdeur de la sentence, hein, je ne dis pas que ce texte est très agréable, la bonne nouvelle liée à la nature de celui qui appelle, puisqu'il est le vivant. Donc cette mort spirituelle est envisagée comme un sommeil qui laisse encore l'espérance et la possibilité d'un réveil. Rappelez-vous ce que Paul déjà écrit aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Il parle à des chrétiens. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Je rappelle que l'église d'Éphèse est dans la liste des sept églises aussi et ils en prennent plein les dents aussi, hein, pour d'autres raisons. Spécifiquement, Éphèse, une très grosse église, ils font plein de trucs, ils sont très engagés. Et Jésus dit, tu as perdu ton premier amour. Repens-toi ou j'enlèverai ton chandelier. Ton église, je la ferme si tu ne te repens pas. On entend souvent dans le milieu chrétien, oh, le diable ferme des églises. Le diable, il a la capacité de fermer aucune église. Le seul qui est le maître de l'église, c'est le Christ. Une église qui ferme, c'est que le Christ dit, elle ne sert plus à rien. On continue. Enfin, je reprends plutôt. Sois vigilant et affermi le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ce reste qu'il faut affermir et qui est la responsabilité de ceux qui sont encore vivants, en état de veille, conscients d'état de mort de ceux qui les entourent dans l'Église, ce sont les membres les moins déchus du troupeau, si je peux le dire comme ça. Ce sont eux qui sont en train de mourir. Le Seigneur exhorte l'église de Sardes et toutes les églises se trouvant dans la même situation à affermir par une sincère repentance, par un redoublement de zèle, ce reste menacé. Quant aux œuvres dont parle le Seigneur, il ne s'agit pas évidemment ici d'œuvres spécifiques qui garantiraient la vie. Parce que je fais ceci, je suis certain d'être vivant. Ce n'est pas ça, hein? Mais bien, ce sont plutôt des manifestations de la vie de ces hommes qui n'étaient pas en accord avec les exigences de Dieu. On a tous, moi le premier, le même problème, hein, c'est que souvent on est content de nous-mêmes. Et on néglige souvent le fait de nous rappeler la vision que Dieu porte sur nos vies, sur ce que nous faisons ou ne faisons pas, la façon dont on vit les choses à différents niveaux, dans différents domaines de nos existences. Il n'y a que Dieu qui peut vraiment nous dire où nous en sommes vraiment, sur notre chemin avec lui. Rappelle-toi, tout commence par la parole de Dieu, hein, rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole, garde-la, cette injonction à garder la parole, elle est même omniprésente dans l'Ancien Testament, hein, et repens-toi. Alors la question qui vient, me semble-t-il, à la lecture de ce verset, c'est comment a-t-on reçu la parole? Parce que Jésus nous dit, il faut un peu que tu retrouves cet état initial de la façon dont tu as reçu la parole. Alors je peux parler que pour moi. Je n'étais pas là, moi, quand vous avez reçu la parole pour la faire enfin, un peu aussi, certains quand même, mais pas tout le monde. Comment avons-nous reçu la parole quand cette parole nous a donné la vie, Esprit Saint aidant? Bien, je pense que nous l'avons reçue selon la vérité, sur base de la parole de Dieu, et avec empressement, nous étions heureux de cette parole, heureux d'avoir rencontré Dieu, heureux de pouvoir le servir, heureux de voir notre vie transformée et notre regard voir pour la première fois véritablement le monde qui nous entoure, comme Dieu le voyait. Je me trompe? Je pense pas. Hein. Tous les chrétiens du monde qui sont passés par la nouvelle naissance dépeignent ces premiers jours de cette manière-là, la plupart. Et quand on prend l'Église primitive, l'Église apostolique, celle des apôtres, on remarque des choses. Surtout qu'ils étaient tous juifs. Ils venaient de la loi. Et du jour au lendemain, on leur dit, la loi, t'oublie. Tu ne peux pas y obéir. Tu ne dois plus te soumettre à la loi. Ce n'est pas la loi qui va te sauver. C'est ta foi en Christ. Et les apôtres ont cru ça. Ils se sont convertis et ils en ont converti des milliers d'autres grâce à ça, avec ce même message de vie. Mais ça ne les poussait pas à se relâcher. Ça ne les poussait pas à s'asseoir ou à s'allonger, à négliger leur service de Dieu, à négliger leur vie spirituelle. Vous savez, quand on lit l'Évangile, moi ça ne me plaît pas non plus, entre parenthèses. Vous avez remarqué, on dit, ah, j'ai un peu calculé au niveau statistique. Vous savez que 80% minimum de l'enseignement de Jésus, c'est des bofs. Hein. C'est pour ça que certains théologiens allemands du 19e se sont perdus. Tellement le message de Jésus est dur et appelle justement à une réaction immédiate parce qu'il revient tout de suite. Et comme il ne revient pas tout de suite, ils ont conclu que tout ça, on pouvait un peu le relativiser et que quelque part, Jésus s'était trompé. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie conséquente. Donc, si donc, dit notre Seigneur, malgré l'urgence qu'il y a pour toi à veiller, tu t'y refuses, tu n'entends pas ce que je te dis, je viendrai, c'est lui qui le dit, hein, et tu ne sauras pas à quelle heure, je viendrai sur toi, c'est ce que le grec dit, je viendrai sur toi. Autrement dit, tu ne sais pas à quelle heure je te tomberai dessus, dirait-on en français. Il faut voir dans cette promesse, parce que c'est une promesse, hein, rassurez-vous, une allusion à son retour en gloire, hein, à son second avènement, ça c'est sûr, à la fin des temps. Mais pas seulement. La menace du Seigneur s'accomplit dans chacun des jugements qu'il exerce en temps réel tous les jours, car alors il vient effectivement chaque fois qu'il vous dit quelque chose dans votre quotidien pour vous réveiller. C'est un avènement qui annonce le grand avènement, son grand retour. Donc si vous ne voulez pas, si je ne veux pas être surpris en train de dormir, il reviendra physiquement, réellement sur cette terre pour juger le monde, il faut forcément que je me réveille quand il fait des injonctions par le Saint-Esprit. Pour l'instant, ces injonctions, ce fait de venir, Jésus ne le manifeste qu'intérieurement, dans votre vie spirituelle, dans votre intériorité d'homme et de femme. Au travers du Saint-Esprit, qui actualise la parole quand vous la lisez. Cette parole, quand Jésus est dur dans cette parole, eh bien, il faut prendre ce message pour vous, parce que nous sommes peut-être dans ce cas-là. Il faut veiller, et il le dit à plusieurs reprises dans l'Évangile, car nul ne sait l'heure de son retour. Jésus avoue à main ses disciples que lui-même ne le sait pas. Seul le Père, rappelez, hein, seul le Père sait. Quand on sait l'heure de la venue de quelqu'un, si vous invitez quelqu'un à manger, vous allez lui donner une heure. Tiens, viens pour 7 heures, c'est bien. 7 heures ce soir, c'est bien. Donc la personne qui attend la visite de cette autre personne, avant 7 heures, sauf si elle prépare à manger, vous me direz, elle peut bien dormir toute la journée. Hein. Elle a qu'à mettre son réveil à une heure fatidique en disant, viens à 7 heures, je fais un spaghetti, je ne vais pas tomber casser la tête, bon, si je me lève à 4 heures d'après-midi, c'est bon. Il met son réveil à 4h30, quand la personne arrive à 7 heures, il est effectivement réveillé. Quand vous ne connaissez pas l'heure, il faut être prêt tout le temps. Vous ne pouvez pas mettre votre réveil. Il faut espérer la venue de celui qui vient en permanence. Il faut rester vigilant. Dans la parabole, je ne vais pas la pousser trop loin, dans la parabole justement du voleur, Jésus précise bien qu'il peut même venir de nuit. Alors là, on se dit, attends, que je ne dorme pas la journée. Ok. Et mais Seigneur, la nuit, il faut que je dorme. C'est spirituellement, encore une fois. Il faut que je dorme. Et Jésus dit, oui, non, je pourrais même venir la nuit. C'est spirituellement qu'il faut entendre le texte. Mais c'est intéressant, me semble-t-il. C'est pour, encore une fois, je pense, éviter toutes les interprétations que l'on peut donner pour se justifier le fait qu'il y a des moments où c'est bon, quoi. Hein? Imaginez qu'ils reviennent en vacances pendant que vous êtes en vacances. Hein? On peut prêcher l'évangile en short sur la plage, hein, je vous rassure. Donc, il faut bien comprendre, même si c'est dur à entendre, que cette parole est avant tout l'expression, encore une fois, de la miséricorde de notre Seigneur. Il ne prend aucune de ses églises en traître. Il les avertit afin qu'elles aient le temps de se repentir, de revenir vers lui. Alors, je ne vais pas casser le jouet, mais je connaissais forcément ces lettres la première fois que je suis allé en Turquie avec Isabelle en 97. C'était assez touchant d'ailleurs de se retrouver sur les pas de Paul à Éphèse. Enfin voilà, c'est un côté, quand vous êtes chrétien, il y a un côté complètement fou là-dedans. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience que la Turquie était le berceau du christianisme. Mais c'est vrai. Hein? Il n'y a plus d'église là. Éphèse fermée. Elles sont toutes mortes. Il y a encore des églises. Hein? Vous pouvez, des vieilles églises, des ruines où vous allez voir des fresques. Toutes des vieilles églises. Oh, c'est beau, mais ces églises sont mortes, il n'y a plus de crête, c'est fini. C'est déjà le cas en 97. Hein. Vous voyez, donc, il y a quand même un appel à prendre, me semble-t-il, hein, tout ça au sérieux. Je sais bien que d'autres disent, oui, mais une église, c'est un corps vivant, donc un corps revient à la vie, et puis à un moment, il meurt, c'est normal. Non. Non, moi, je pense qu'une église devrait pouvoir tenir des siècles, sans doute, hein, si les chrétiens était cohérent par rapport à leur appel. Cependant, ça c'est la bonne nouvelle de la lettre, tu as Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, petite parenthèse, cette allusion qui revient au fait que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Église dit aux églises. Connaissez des gens qui n'ont pas d'oreilles, vous? Je dis ça parce que cette expression, elle apparaît pour la première fois dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, je pense. Et l'hébreu dit littéralement, quand Dieu parle à son prophète au sujet d'Israël, il dit, ce peuple, l'hébreu dit littéralement, n'a pas de conduit auditif. Donc il ne pourrait pas entendre, puisqu'il n'a pas ce qu'il faut pour ça. Donc c'est intéressant, me semble-t-il. Donc la question n'est pas de savoir si on entend, la question est de savoir, est-ce que tu as des oreilles? Est-ce que Dieu t'a donné ces oreilles qui seules peuvent entendre ce qu'il a te dit? Donc on revient dans la notion, est-ce que tu es spirituellement né, spirituellement vivant? L'autre terme important dans ce verset, c'est le mot vêtement. Toujours dans les soldes. Alors, il est pris deux fois, mais vous en doutez, hein, dans un sens figuré, hein, c'est spirituellement. Ce vêtement blanc, c'est une image dans toute l'Écriture, c'est l'image de la justice dont Dieu revêt ses enfants en Christ. C'est une image de la sainteté, de la pureté produite par la vie nouvelle que le Christ place dans le cœur de quelqu'un qui place sa foi en lui et que l'Esprit Saint lui applique. Cette justice de Dieu, cette justice accomplie et acquérie, ça dit ça? Par le Christ, acquise, pardon, par le Christ, c'est l'Esprit Saint comme une sorte de colle qui colle ça au cœur, à l'âme du nouveau-né par la foi et dans la foi. Donc souiller, parce que ce vêtement blanc, cette robe blanche, on l'a tous, hein, souiller, salir ce vêtement-là. Mais comment peut-on le salir? À votre avis, par le péché. Alors le péché, ça peut être quelque chose de pas extravagant du tout. Hein. On ne parle pas de tuer quelqu'un, enfin, ça, il faut éviter aussi, mais c'est pas ça seulement. Hein. C'est par ce désintérêt des choses de Dieu, c'est péché. C'est progressivement laisser aller les choses au niveau relationnel avec Dieu, voilà, ça suffit. Il ne faut pas des trucs extraordinaires. Hein. Simple pensée qui n'est pas dans l'ordre des choses du Seigneur, ben, il faut rectifier ça. Il faut se battre contre, et on a tous ce problème, me semble-t-il. Parce que rentrer dans ce mécanisme de désintérêt, de péché systématique qui s'installe progressivement et dont on n'est plus conscient puisqu'on commence à s'endormir, ça amène à ce que Jésus décrit comme une mort spirituelle. Alors, quel est le plus grand problème aux yeux de Dieu dans ce processus inverse? Il donne la vie et nous, on la perd progressivement. Je ne parle pas du salut ici, hein, de perdre la vie progressivement, de s'éteindre quelque part. Qu'est-ce qui est embêtant? Bien, avant d'être chrétien, qui péchait? Votre vieil homme. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est impossible. Vous n'avez pas d'autre force en vous que la volonté de ce vieil homme, de votre nature humaine. Oui, mais quand vous êtes né de nouveau, il s'est passé une chose. C'est que ce vieil homme, dit Paul, a été crucifié avec le Christ. Il est mort. Je ne parle pas de l'ancienne nature, je parle du vieil homme. Tous vos péchés passés ont été crucifiés, mis à mort. Je dirais le tome de votre vie qui existait avant votre rencontre avec Dieu, ce tome-là, il n'existe plus. Le seul problème quand un chrétien vit une vie de péché continuelle, d'endormissement spirituel continu, c'est que ce n'est plus son vieil homme qui pêche, c'est le nouveau. C'est pour ça qu'il salit son vêtement. La robe de votre vieil homme, elle était dégueulasse, hein, puisqu'elle était pleine de... Elle était dégueulasse. Même avec dreft d'âche Ariel, pas possible. Hein, de laver ça, impossible. Et c'est parce que le roi David avait compris ça. Dans le psaume 51, il dit à Dieu, on traduit ça par « lave-moi ». Hein. « Lave-moi de mon péché », c'est de vous rappeler, hein. L'hébreu a littéralement récure-moi, quoi. Parce que c'est sa nouvelle nature. Vous comprenez? C'est l'homme nouveau qui a été entaché par ce péché. Et c'est une antinomie dans les faits. Parce que c'est quelque part un abus de la grâce de Dieu. Il faut prendre la grâce de Dieu au sérieux, mes amis. Alors, il y a une autre fabuleuse promesse ici, qui est adressée en particulier à ceux, aux personnes qui, à Sardes, n'avaient pas été atteintes justement de ce mal de souiller sa robe systématiquement. Ils seront donc revêtus de vêtements blancs, hein, promesse de salut, etc. Ce qui est très intéressant, et on retrouve la notion des noms écrits dans le livre de vie, c'est que le grec, il n'a pas le terme personne, il a le grec nom. C'est le terme nom qui est N-O-M-S, hein, noma en grec. Dont les noms, le petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors l'apôtre Jean va voir plus d'une fois dans ses visions, dans l'Apocalypse, ses visions de la vie future, parce que ça parle du futur, l'Apocalypse. Il va voir les rachetés parés de ses vêtements blancs. Il va les voir plus d'une fois, ces hommes et ces femmes vêtus de blanc, qui distinguent donc les vainqueurs, et qui était donc le symbole de la pureté et de la sainteté amenée à sa perfection. Ces personnes, ces noms en sont dignes, dit le Seigneur, ces personnes auxquelles il promet cette gloire, pas parce qu'elles l'aient méritée par leurs œuvres, ça il faut quand même le rappeler, car leur fidélité est une grâce de celui qui seul nous rend et nous conserve purs, mais elles en avaient fait valoir ce don de la grâce avec humilité et conscience, et devaient, d'après l'ordre de Dieu, recevoir encore bien davantage lorsque notre Seigneur serait revenu. Ça nous fait penser à la parabole des talents, vous rappelez? L'un qui en reçoit 10, l'autre 5, l'autre 1. C'est vrai que la parabole dit que le maître, il part longtemps. Hein. Il est parti il y a 2000 ans, le Seigneur. Hein. C'est long, hein, non? Mais quand il revient en parabole, celui qui en avait 10, il en a fait 20, celui qui en avait 5, il en a fait 10, et celui qui en avait 1, il l'a enterré. Il n'a rien fait du tout. Rappelez la fin, retire-toi de moi, mauvais serviteur. Alors que dire pour terminer? On va peut-être terminer. Hein. Ben, je pense qu'il faut prendre conscience que c'est à nous que notre Seigneur parle de cette manière-là. Il ne faut pas se voiler la face, même et surtout si cette parole est difficile à entendre. Et ce n'est pas la seule. Hein. Et je sais qu'elle est difficile à entendre. Il ne faut pas se tromper parce que c'est bien lui qui frappe à la porte de l'église de Sardes. C'est un autre passage dans l'Apocalypse, justement, où Jésus frappe à la porte. Il est à la porte de sa propre Église. Le Seigneur de l'Église est en dehors de son Église et doit frapper pour qu'on lui ouvre. C'est une image extraordinaire, ça, quand même. Alors, cette porte, ça peut évidemment être, mais ça vous en doutez sans doute, aussi, et peut-être même surtout, la porte de notre cœur. Mais, comme le disait déjà Esaïe, je l'ai dit, nos oreilles sont si souvent bouchées à l'écho de sa voix. Il n'y a pas que le cérumen qui peut boucher les oreilles spirituellement. Alors moi, je n'aurais qu'une chose à dire par rapport à ça, c'est ouvrons la porte afin que notre Seigneur entre et qu'il puisse veiller justement avec nous. Donc cet enseignement nous met en garde contre une trop grande confiance en ce que nous pensons savoir de nous-mêmes, je pense, et moi le premier. Il nous exhorte à rester éveillés de nuit comme de jour et à déposer notre cœur tous les jours devant notre Seigneur pour qu'il nous dise ce qui s'y trouve véritablement. Et que s'il y a des choses qui ne sont pas à sa gloire, qu'il puisse faire le nécessaire, qu'on nous laissions faire le nécessaire pour que notre robe reste blanche. Nous sommes, vous le savez, supposés attendre son retour en nous mettant à son service. Et l'une des plus terribles paroles, parce qu'on croit que celle-là est terrible, hein, moi il y en a une autre que je trouve encore plus terrible, si c'est possible. L'une des plus terribles paroles de Jésus dans l'Évangile est celle où il s'interroge sur le fait qu'il trouvera, s'il trouvera encore la foi sur la terre ou pas quand il reviendra. Rappelez de cette parole en Luc 18. Mais quand il reviendra, le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi sur la terre? La foi, mes amis, ça ne concerne que les chrétiens. C'est donc bien des chrétiens qu'il parle. Et cette question, c'est à nous que Jésus la pose. Est-ce que quand je vais revenir, je pourrais te compter dans ceux qui possèdent encore la foi? Durant mon absence, feras-tu partie de ceux qui auront participé à l'éradication de la foi ou de ceux qui l'auront propagée? C'est une question que notre Seigneur pose à chacun d'entre nous. Croyez-moi, les trois dernières semaines ont été très 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 chouettes et très gaies pour moi. Que notre Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.